1978. Chez soi, c'est là où, quand t'arrives, on peut pas te demander de repartir. Mais quand Maurice arriva à la maison de Sycamore Street, il n'y avait aucune lumière pour éclaircir les ténèbres du soir, et personne pour l'accueillir à la porte. Qui aurait-il bien pu y avoir? Sa mère était dans le New Jersey, en train de donner des conférences sur la façon dont une bande d'hommes d'affaires du 19e siècle avait essayé de piller l'Amérique. De donner des conférences à des étudiants de master qui prendraient probablement la relève pour voler tout ce dont ils pourraient s'emparer dans leur poursuite du billet d'or. Certains auraient sans doute dit que Maurice aussi s'était lancé à la poursuite de quelques billets d'or dans le New Hampshire. Mais c'était pas ça. Il n'y était pas allé pour l'argent. Il voulait mettre la Biscayne au garage et hors de vue. Putain, non! Il voulait se débarrasser de la Biscayne. Mais ça devrait attendre. Sa priorité immédiate, c'était Pauline Muller. La plupart des gens dans Sycamore étaient tellement scotchés à leur poste de télé qu'une fois la première partie de la soirée commencée, ils n'auraient même pas vu un ovni atterrir sur leur pelouse. Mais ce n'était pas le cas de Madame Muller. La voisine des belles amies avait élevé l'espionnage au rang d'art. C'est donc chez elle qu'il se rendit en premier.
« Oh, mais regardez qui voilà !»
glapit-elle en ouvrant la porte, comme si elle n'était pas en train de zioter par la fenêtre de la cuisine quand Maurice s'est égaré dans l'allée.
« Maurice, belle amie, en chair et en os, et beau comme un dieu !»
Maurice afficha son plus beau sourire. « Oh, vous alors ? Comment allez-vous, Madame Muller ?» Elle le serra dans une étreinte dont Maurice se serait passé, mais qu'il lui rendit docilement. Elle tourna ensuite la tête, ébranlant ses bajoues et son double menton, et cria
« Berthe ! Bertie ! C'est Maurice, belle amie !»
Depuis le salon lui parvint un triple grognement qui aurait pu correspondre à un « comment tu vas ?»«
Entre donc, Maurice. Entre, entre, je vais faire du café. Et devine quoi ?»
Elle remua ses sourcils noirs colorés d'une manière horriblement aguicheuse.
« Il y a du 4/4 à rallye !»
Ça m'a l'air fameux, tout ça. Mais je rentre à peine de Boston. J'ai fait la route d'une traite, je suis plutôt claqué. Je voulais pas que vous vous inquiétiez en voyant les lumières et que vous appeliez la police. Elle lâcha un rire perçant, plutôt un hurlement de singe.
« Tu es si prévenant, mais tu l'as toujours été. Comment va ta mère, Maurice ?»«
Bien. » Il n'en avait aucune idée. Depuis son séjour en maison de redressement et son échec au City College à l'âge de 21 ans, les relations qu'entretenaient Maurice et Anita Bellamy se résumaient au coup de téléphone protocolaire. Glacial, mais courtois. Après une ultime dispute, la nuit de son arrestation pour effraction et autres broutilles, ils avaient pour ainsi dire renoncé l'un à l'autre.
« Dieu que tu as pris du muscle !» dit Madame Muller. « Les filles doivent adorer ça. Tu étais si maigrichon à l'époque. »
« C'est d'avoir travaillé dans le bâtiment, ça. »«
Dans le bâtiment, toi ? D'où Jésus ? Bertie ! Maurice a travaillé dans le bâtiment !»
Quelques grognements de plus leur parvinrent du salon. « Oui, mais le boulot a fini par manquer, et je suis rentré. Maman m'a dit que j'étais le bienvenu si je voulais utiliser la maison, sauf si elle arrivait à la louer, mais je vais probablement pas rester longtemps. » Comme ce pronostic s'était révélé juste.
« Viens donc dans le salon, Maurice. Viens dire bonjour à Berthe. »
« Je ferais mieux de remettre ça à plus tard. » Afin de prévenir tout harcèlement supplémentaire, il cria.
« Salut, Berthe !»
Encore un grognement, inintelligible, par-dessus les rires enregistrés de « Welcome back, Cotter ».«
Demain, alors ?»
dit Madame Muller avec ce même frétillement de sourcils. On aurait dit qu'elle faisait une imitation de Groucho.
« Je mets le 4/4 de côté, et je pourrais même fouetter un peu de crème. »«
Super !» dit Maurice. Il y avait peu de chances que Madame Muller meure d'une crise cardiaque avant le lendemain, mais c'était toujours possible. Comme disait un autre grand poète, « L'espoir jaillit, éternel, dans le cœur humain. » Les clés de la maison et du garage étaient suspendues à leur endroit habituel, sous l'avant-toit à droite du perron. Maurice mit la Biscayne au garage, et déposa la malle qu'il avait dégotée chez l'antiquaire sur le sol en béton. Ça le démangeait de se mettre à la lecture du 4e roman de Jimmy Gold, mais les carnets étaient tous en pagaille, et en plus, ses yeux se fermeraient avant qu'il ait lu une seule page de l'écriture minuscule de Rothstein. Il était vraiment crevé. « Demain, se jura-t-il. Quand j'aurai parlé à Andy, que j'en saurai un peu plus sur la façon dont il veut gérer ça, je les mettrai en ordre et je commencerai à lire. Il poussa la malle sous le vieil établi de son père et la couvrit d'un morceau de plastique qu'il trouva dans un coin. Puis il rentra et fit le tour de la vieille maison. Elle était à peu près toujours pareille, c'est-à-dire pourrie. Il n'y avait rien dans le frigo, à part un bocal de cornichons et une boîte de bicarbonate de soude, mais il y avait des plats tout prêts Hungry Man au congélateur. Il en mit un au four, régla le thermostat sur 170 et monta à son ancienne chambre. « Je l'ai fait, se dit-il, j'ai réussi. Je suis assis sur 18 ans de manuscrits inédits de John Rothstein. » Il était trop fatigué pour éprouver de la jubilation, ou même un tant soit peu de plaisir. Il faillit s'endormir sous la douche, puis devant un plateau réellement dégueulasse de pain de viande et pommes de terre instantanées. Il l'engloutit quand même, puis remonta lourdement l'escalier. 40 secondes après avoir posé sa tête sur l'oreiller, il s'endormit, pour ne se réveiller qu'à 9h20 le lendemain matin. Bien reposé, dans son lit d'enfant inondé de soleil, Maurice ressentait enfin de la jubilation. Et il n'avait qu'une hâte, la partager. Autrement dit, aller voir Andy Hallyday. Il trouva un pantalon de treillis et une jolie chemise madras dans son placard, se coiffa les cheveux en arrière et alla jeter un bref coup d'œil dans le garage pour vérifier que tout allait bien de ce côté-là. Il salua Madame Muller, en embuscade derrière ses rideaux une fois de plus, d'un signe de la main qu'il espéra désinvolte alors qu'il se dirigeait vers l'arrêt de bus. Il arriva au centre-ville un peu avant 10h, remonta un pâté de maison à pied et lorgna dans Ellis Avenue en direction du Happy Cup, où les tables en terrasse étaient surmontées de parasols roses. Et bien évidemment, Andy prenait sa pause café. Encore mieux, il était de dos, ce qui permit à Maurice de l'approcher sans être vu. « Beau !» cria-t-il en posant la main sur l'épaule de son vieux blazer en velours côtelé. Son vieil ami, finalement son seul ami dans cette ville bidon remplie d'ignorants, sursauta et pivota sur sa chaise. Son café se renversa sur la table. Maurice recula. Il n'avait pas voulu faire peur à Andy, juste le surprendre.
« Oh, pardon, qu'est-ce que t'as fait ?»
demanda Andy dans un chuchotement bas et grinçant. Sous ses lunettes, à monture de corne, le comble de l'affectation selon Maurice, ses yeux lançaient des éclairs.
« Qu'est-ce que t'as foutu, putain ?»
C'était pas l'accueil auquel Maurice s'attendait. Il s'assit. « Ce dont on avait parlé ?» Il examina le visage de Andy et n'y trouva rien de la supériorité intellectuelle amusée que son ami affectait d'ordinaire. Andy avait l'air terrifié. Par Maurice ? Peut-être. Pour lui-même ? Presque à coup sûr.
Je devrais pas être vu avec
Maurice transportait un sac en papier marron qu'il avait pris dans la cuisine. Il en sortit un des carnets de Rothstein et le posa sur la table en prenant soin d'éviter la petite flaque de café. Un échantillon, parmi beaucoup d'autres. Au moins 150. J'ai pas encore eu le temps de compter, mais c'est le total jackpot.
Range ça!
Andy chuchotait toujours comme un personnage dans un mauvais film d'espionnage. Ses yeux allaient d'un côté à l'autre, revenant sans cesse au carnet.
« Le meurtre de Rothstein fait la une du New York Times et de toutes les chaînes de télé, espèce de crétin !»
Maurice reçut la nouvelle comme un choc. 3 jours étaient censés s'écouler avant que quelqu'un découvre le corps de l'écrivain. Peut-être même 6. La réaction de Andy était un choc encore plus grand. Il ressemblait à un rat pris au piège. Maurice se fendit de ce qu'il espérait être une bonne approximation du sourire. « Je suis tellement intelligent que ça me fatigue moi-même » de Andy. « Calme-toi. Dans ce coin de la ville, il y a des gosses qui trimballent des carnets partout. » Il pointa le doigt vers l'autre côté de la rue, en direction de Government Square. « Tiens, il y en a un juste là. »«
Mais pas des Moleskines, merde ! La femme de ménage savait quelle marque Rothstein utilisait, et le journal dit que le coffre-fort dans son bureau était ouvert et vide. Range-moi ça !»
À la place, Maury poussa le carnet vers Andy, prenant toujours bien soin d'éviter la tache de café. Andy commençait sérieusement à lui taper sur les nerfs. « Il me fèche », comme aurait dit Jimmy Gold. Mais il retirait aussi une sorte de plaisir pervers à le regarder se ratatiner sur sa chaise, comme si le carnet était un flacon rempli de bacilles de la peste. « Vas-y, jette un coup d'œil. Celui-là, c'est presque que de la poésie. Je l'ai feuilleté dans le bus. Dans le bus? T'es pas cinglé? Et c'est pas terrible, poursuivit Maurice comme s'il n'avait rien entendu. Mais c'est bien lui l'auteur, pas de doute. Manuscrit holographe, extrêmement précieux. On en a déjà discuté, plusieurs fois. On a discuté de comment...
Vire-moi ça de là!
Maurice n'aimait pas l'admettre, mais la paranoïa de Andy était contagieuse. Il remit le carnet dans le sac et regarda son vieil ami, son seul ami, d'un air renfrogné. C'est pas comme si je proposais qu'on fasse une vente trottoir ou quoi.
Où est le reste?
Et avant que Maurice puisse répondre, peu importe, je veux pas savoir.
Tu réalises pas à quel point c'est chaud comme sujet, à quel point c'est chaud pour toi.
C'est pas chaud, dit Maurice. Mais il avait chaud. Tout d'un coup, ses joues et sa nuque étaient brûlantes. Andy réagissait comme s'il s'était chié dessus, au lieu d'avoir commis le crime du siècle. Personne ne peut faire le lien entre Rothstein et moi. Et je sais qu'il va falloir attendre un bon moment avant de pouvoir les vendre à un collectionneur privé. Je suis pas con.
Les vendre à un col... Maury, t'entends ce que tu dis?
Maurice croisa les bras et regarda son ami. Du moins, l'homme qui avait été son ami. Tu réagis comme si on n'en avait jamais parlé. Comme si on l'avait jamais projeté.
On n'a jamais rien projeté. C'était juste une histoire qu'on se racontait. Je pensais que t'avais pigé.
Ce que Maurice pigeait, c'est que c'était exactement ce que Andy dirait à la police si lui, Maurice, se faisait arrêter. Et Andy s'attendait à ce qu'il se fasse arrêter. Pour la première fois, Maurice prit pleinement conscience que loin d'être un colosse intellectuel désireux de s'associer à lui dans un acte de banditisme existentialiste, Andy n'était rien qu'un minable de plus, un employé de librairie plus âgé que lui d'à peine quelques années. « Vous pouvez garder pour vous vos critiques littéraires à la con », lui avait dit Rothstein dans les deux dernières minutes de sa vie. « Vous n'êtes qu'un vulgaire voleur, mon ami. » Ses tempes commençaient à palpiter. « J'aurais dû m'en douter. Tous tes beaux discours sur les collectionneurs privés, les stars de cinéma, les princes saoudiens et je sais pas qui encore. Que des paroles en l'air. T'as que de la gueule. » Le coup avait porté. L'impact était tangible. Maurice vit ça et en fut content. Exactement comme quand il avait réussi à clouer le bec à sa mère à une ou deux reprises lors de leur dernière dispute. Andy se pencha en avant, les joues écarlates. Mais avant qu'il ait pu parler, une serveuse apparut avec une poignée de serviettes en papier.
« Je vais m'occuper de ça, » dit-elle en essuyant le café.
Elle était jeune, blond cendré naturel, jolie à sa manière pâle, peut-être même belle. Elle sourit à Andy. Il lui répondit d'une grimace chagrine, tout en s'écartant d'elle, comme il s'était écarté du carnet Moleskine.
« Il est homo ?» se dit Maurice ébahi. « C'est un foutu homo ? Comment je l'ai jamais su ? Comment j'ai fait pour jamais m'en rendre compte ? Il pourrait aussi bien porter une pancarte ?»
Enfin, il y avait beaucoup de choses concernant Andy qu'il avait jamais vues, pas vrai ? Maurice repensa à un truc qu'un de ses collègues de chantier aimait bien dire. Il a que le pistolet, pas les balles. La serveuse partit, emportant avec elle ses vapeurs toxiques de fille. Andy se pencha de nouveau en avant.
Ces collectionneurs existent, dit-il. Ils accumulent les peintures, les sculptures, les éditions originales. Il y a un mania du pétrole au Texas qui a toute une collection de vieux enregistrements sur cylindres de cire. Un autre qui possède des éditions complètes de tous les magazines westerns, SF et épouvante, publié entre les années 1910 et 1955. Tu crois que tous ces trucs ont été achetés et revendus légalement? Mon cul, oui. Les collectionneurs sont cinglés. Les pires d'entre eux se foutent carrément de savoir si les trucs qu'ils convoitent ont été volés ou pas. Et tu peux être certain qu'ils veulent pas partager avec le reste du monde.
Maurice connaissait la chanson. Et ça devait se lire sur son visage. Car Andy se pencha encore plus près. Leur nez se touchait presque à présent. Maurice flaira cuir anglais, et il se demanda si c'était l'après-rasage préféré des homos, genre un signe de reconnaissance secret ou quelque chose.
« Seulement, tu crois vraiment qu'un de ces types m'écouterait, moi ?»
Maurice Bellamy, qui voyait maintenant Andy sous un nouveau jour, répondit qu'il imaginait que non. Andy avança la lèvre inférieure en une moue enfantine.
Ils m'écouteront un jour, ouais, quand j'aurai ma propre boutique et que je me serai fait une clientèle. Mais ça prendra des années.
On avait parlé d'attendre 5 ans.
5 ?
Andy aboya un rire et se renfonça dans sa chaise.
J'aurais peut-être réussi à ouvrir ma librairie dans 5 ans. J'ai repéré un petit local sur l'Eastmaker Lane. Il y a un magasin de tissus pour le moment, mais ça marche pas très fort. Mais ça prend beaucoup plus de temps de trouver des clients friqués et d'établir des relations de confiance.
Ça fait beaucoup de mais, se dit Maurice. Et il n'y avait aucun mais avant. Combien de temps ?
Pourquoi tu reviens pas me voir début 21e siècle avec tes carnets, si tu les as toujours ? Même si j'avais une liste de collectionneurs privés à appeler là tout de suite, même le plus cinglé d'entre eux voudrait pas être mêlé à une affaire aussi brûlante.
Maurice le fixait, incapable de parler. Enfin, il dit. C'est pas ce que tu disais quand on planifiait. Andy se prit la tête à deux mains.
On n'a rien planifié du tout. Et n'essaie pas de me foutre ça sur le dos, t'as pas intérêt. Je te connais, Maury. Tu les as pas volés pour les revendre. Du moins pas avant de les avoir lus. Ensuite, j'imagine que peut-être tu voudras en partager quelques-uns avec le reste du monde si on te propose un bon prix. Mais concrètement, t'es juste barge de John Rothstein.
Me traite pas de barge. Ça tambourinait dans ses tempes, pire que jamais.
Je te traiterai de barge si c'est la vérité, et c'est la vérité. T'es barge de Jimmy Gold aussi. C'est à cause de lui que t'as fait de la tôle.
J'ai fait de la tôle à cause de ma mère. Elle aurait aussi bien pu tourner elle-même la clé.
Peu importe, c'est du passé. Là, c'est maintenant. À moins que t'aies de la chance, la police va pas tarder à te rendre une petite visite, et probablement avec un mandat de perquisition. Si t'as ses carnets le jour où ils frapperont à ta porte, t'es cuit.
Pourquoi ils viendraient ? Personne nous a vus et mes partenaires. Il lui fit un clin d'œil. Disons que les morts ne parlent pas.
Quoi ? Tu les as tués ? Tués ? Eux aussi ?
Sur le visage de Andy, l'horreur commençait à poindre. Maurice savait qu'il aurait dû garder ça pour lui. Mais, marrant comme ses mets n'arrêtaient pas de ressortir, Andy le faisait carrément chier.
C'est quoi le nom du bled où il habitait ?
Le regard de Andy scrutait les environs à nouveau, comme s'il s'attendait à ce que les flics leur tombent déjà dessus, armes au poing.
Talbot Corners, c'est ça ?
Oui, mais c'est surtout des fermes là-bas. Ce qu'ils appellent Corners, c'est rien de plus qu'un resto, une épicerie et une station essence où deux routes nationales se croisent.
Combien de fois t'y es allé ?
5, peut-être. En réalité, entre 1976 et 1978, ça se rapprochait plus de la dizaine. D'abord tout seul, puis avec Freddy ou Curtis, ou les deux.
T'as déjà posé des questions sur l'habitant le plus connu du secteur quand t'étais là-bas ?
Ouais, une ou deux, bien sûr. Et alors ? Probable que tous les gens qui s'arrêtent à ce resto demandent
« Non, c'est là que tu te gourres. La plupart des gens qui foutent les pieds là-bas en ont rien à carrer de John Rothstein. Le seul truc qui les intéresse, c'est quand commence la saison de la chasse aux cerfs et quel genre de poisson ils peuvent pêcher dans le lac du coin. Tu crois pas que les locaux se souviendront de toi quand la police viendra leur demander s'il y a eu des inconnus un peu trop curieux sur le compte du type qu'a écrit le coureur ? Des inconnus un peu trop curieux qui auraient fait plusieurs visites ? En plus, t'as déjà un casier, Maury.
J'étais mineur, c'est classé.
Dans une affaire aussi énorme, ça peut se rouvrir facilement. Et tes complices, est-ce qu'ils avaient des casiers, eux ?
Maurice ne dit rien.
Tu sais pas qui t'a vu et t'as aucune idée de ce que tes complices ont pu raconter sur le braquage du siècle qu'ils étaient en train de préparer. La police pourrait te choper aujourd'hui, crétin. Si ça arrive et que tu m'incrimines, je nierai avoir jamais parlé de ça avec toi. Mais je vais te donner un bon conseil. Débarrasse-toi de ça.
Il lui montrait le sac en papier marron.
De ça et de tous les autres carnets. Planque-les quelque part. Enterre-les. Si tu fais ça avant qu'ils te chopent, peut-être que tu pourras t'en tirer. À supposer que t'aies laissé aucune empreinte ou autre.
On n'a rien laissé, pensa Maurice. Je suis pas débile. Et je suis pas un homo avec rien que de la gueule et pas de couilles non plus.
Peut-être qu'on pourra en reparler un jour, dit Andy. Mais ça sera dans très longtemps. Et seulement si tu te fais pas choper.
Il se leva.
En attendant, t'approches pas de moi, ou je me charge d'appeler la police moi-même.
Il s'éloigna d'un pas rapide, tête baissée, sans se retourner. Maurice resta assis. La jolie serveuse revint lui demander s'il lui fallait autre chose. Il secoua la tête. Quand elle s'éloigna, il ramassa le sac contenant le carnet et s'éloigna lui aussi, dans la direction opposée.